matin, trois facteurs pour vivre victorieusement. Alors à Genèse, je voudrais traiter de l'autorité. Dans l'Ancien Testament, le mot autorité est le mot domination. Et ça veut dire avoir un pouvoir délégué, d'exercer sur un territoire ou sur une zone de responsabilité. Et en Genèse 1, au verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous vous rappelez l'image de Dieu en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et je m'en vais clarifier ceci pour vous. Les anges ont été créés comme des êtres spirituels. Ils existaient déjà avant que nous arrivions au verset 26 de Genèse 1. Et il est dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Eh bien, si les esprits existaient déjà, pourquoi Dieu devait-il le créer pour l'homme? Il s'agit là d'une bonne question, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une différence entre l'esprit dont les anges ont été faits, les séraphins et les chérubins, et l'esprit qui est créé au sein de l'homme. Ici, je pense que c'est l'esprit de Dieu. Et peu importe ce dont les anges ont été faits, il est différent de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je crois que nous avons une position unique en Dieu. Et dans l'enseignement que j'ai partagé sur notre position dans le royaume de Dieu, j'avais dit pourquoi l'homme se plaçait en seconde position par rapport à Dieu. Il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous savez qu'il est la souveraineté et le pouvoir. Et le mot domination veut dire prévaloir contre. Et comme j'ai partagé dans la construction, si vous voulez, hébraïque, ça veut dire une permission accordée, ou comme dit Sio, un pouvoir délégué d'exercer, et l'homme doit l'exercer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. C'est Dieu seul qui l'a fait. Les anges n'y étaient pas associés. Encore une fois, en hébreu, quand il est dit « faisons », c'est une construction hébraïque pour montrer la magnitude, la grandeur de ce dont on parle. Et quand nous parlons du roi, nous dirions, nous, le roi, voyez, et ceci montre la magnitude de son royaume, la grandeur, l'étendue de son royaume. Mais c'est lui qui fonctionne. Donc, c'est Dieu qui l'a fait. Et ceci est très important pour que l'homme et la domination sur tous ces différents aspects dans son domaine de responsabilité. Donc, Dieu créa donc cet esprit en lui. Alors, Dieu créa, ce mot est absent de la version, le mot « donc » est absent de la version française de King James. Mais il est présent dans la version anglaise. Et ça veut dire, par conséquent, ouais, si Dieu voulait que l'homme ait la domination, par conséquent, Dieu devait créer un esprit en lui. Et ça dit au verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Et voilà, et c'est vraiment si merveilleux et si important parce que C'est ça qu'il faut pour avoir la domination, l'Esprit de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu, comme il est dit en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dieu nous a créés dans sa ressemblance. Quand il s'agit de la vie de l'âme, regardons à Genèse 1 au verset 21. Il est dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. En hébreu, c'est le mot âme. Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Quand il s'agissait de créer l'homme, étant donné que l'âme existait déjà, il l'utilisa aussi pour l'homme. C'est ce que nous avons de commun avec les animaux. Pour ce qui est de l'esprit, il est absolument et uniquement conçu afin que nous ayons la domination, n'est-ce pas quelque chose? Bon Dieu. Donc, l'homme avait la domination. Ainsi donc, la terre devait servir l'homme. La question est qu'aujourd'hui, servons-nous la terre ou c'est la terre qui nous sert? Car c'était cela le dessein de Dieu. Regardez à Luc 4, verset 6. Il veut traiter du transfert de ce pouvoir qu'Adam donna à Lucifer ou au serpent. Qui, du coup, a acquis cette autorité? Ce qui fit le premier péché de l'humanité, bien sûr, c'est d'abandonner son pouvoir. Et nous devons séparer ce péché avec le premier péché, à savoir la rébellion de Lucifer contre Dieu. Et en Luc 4, 6, il est dit, et le diable lui dit, ici, c'était pendant la tentation de Jésus-Christ, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Si le mot puissance veut dire exousia, puissance déléguée, d'exercer sur une zone de responsabilité. Et le diable est en train de l'offrir à Jésus. Donc, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. L'adversaire a reçu cette domination. Dans la version New American Standard, ce verset se lit comme suit. Il m'a été remise et je la donne à qui je souhaite. The New Translation dit, je donnerai l'autorité et la splendeur car ils m'ont été donnés et je peux les donner à qui je veux. Vous voyez que l'homme a perdu cette domination en la transférant à l'adversaire. Et Jésus-Christ devait la reprendre pour nous. Alors, qui a la domination, la souveraineté? Le verset 6 nous dit que c'est le diable. De temps en temps, certaines personnes se lèveront pour réclamer une portion de cette puissance, à un certain degré, par exemple un roi, comme en Néhémie 25, dans certaines villes, il pouvait réclamer l'autorité, ne serait-ce que pour une période de temps. Mais on pouvait la perdre. Alors, Jésus-Christ l'a réclamée dans son intégralité, en vainquant le royaume de l'adversaire. Regardons à Colossiens 2. Colossiens 2, ce verset que l'adversaire n'aime pas. Ce grand récit. Je vous assure que ce récit fait trembler l'adversaire. Et ce grand récit nous le fait savoir pour que nous l'ayons établi dans nos cœurs. Colossiens chapitre 2 au verset 14 et 15. Il, c'est-à-dire Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, car il a détruit, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, exousia. pouvoir délégué d'exercer sur une zone de responsabilité. C'est-à-dire que Jésus a dépouillé, a arraché les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et une fois que Jésus avait l'autorité, il pouvait à coup sûr la donner à qui il veut. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons face aux puissances spirituelles, mais nous devons toujours nous rappeler qu'il s'agit de puissances spirituelles vaincues. Alors, quand nous, en tant qu'individus, exerçons notre puissance donnée par Dieu en Christ, nous devons être conscients de trois facteurs ou trois aspects ou trois vérités. Le premier, c'est le libre arbitre. Le deuxième, c'est la loi de la croyance. Et le troisième, c'est votre autorité spirituelle, notre autorité spirituelle. Chaque facteur, aspect ou vérité a une partie importante à jouer dans la marche de puissance et de victoire. Alors, regardez au premier point, regardons au premier point, qui est le libre arbitre, qui est la capacité ou la discrétion à choisir. J'aimerais aller à Deutéronome 30. Deutéronome 30, au verset 19. Ici, Moïse parle aux enfants d'Israël. Et ça dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis quoi? La vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est librement établi, car nous avons le droit de choisir. Et il doit nous dire la chose correcte à choisir, choisis la vie. Nous avons le libre arbitre, vous avez le choix, et pour que Dieu soit amour, il doit autoriser le libre arbitre. Voyez-vous? Et certains choix sont bons. Et certains sont bien sûr mauvais. Certains choix apportent la bénédiction. D'autres, par contre, apportent la malédiction. Nous devons choisir. Vous savez, sans le libre arbitre, il ne peut y avoir de vrai amour. Regardez à Ésaïe, Ésaïe 14, Ésaïe 14, vous pouvez choisir la vie ou vous pouvez choisir la mort. Vous pouvez aussi choisir les bénédictions, comme vous pouvez choisir la malédiction. Et en Ésaïe 14, au verset 12, que voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Alors, pouvait-il choisir les bénédictions? Eh oui. Tout ce qu'il voulait conduisait à la malédiction. Il avait le libre arbitre. Il a choisi. Et il avait la liberté de choisir. Regardez à Jean 5. Jean. Évangile de Jean, chapitre 5. Je voudrais travailler ces choses, car c'est important. que nous ayons le libre arbitre. Et que nous le maintenions. S'il ne veut pas seulement de l'avoir, il faut aussi le maintenir. Et nous allons le maintenir en choisissant la vie. Nous pouvons maintenir ce libre arbitre en choisissant les bénédictions. Nous voulons nous assurer que nous opérons le bon choix. Et le libre arbitre est très important. Et tout le monde l'a, croyant ou non. Mais vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un. En Jean 5, au verset 30, il est dit, Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il avait la possibilité ou le libre arbitre de choisir sa volonté. Mais il a choisi la volonté de celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, Jésus a choisi la vie. Parfois, nous souhaitons n'avoir pas eu le libre arbitre. Mais comment serait l'amour sans libre arbitre? N'est-ce pas merveilleux que nos enfants décident de nous aimer? Il en est de même avec Dieu. En Deutéronome 7, le libre arbitre est très important. Comme je viens de le lire, sans libre arbitre, il n'y a pas d'amour. Ça existera, cet amour. Mais ça ne sera pas manifesté sans libre arbitre. Deutéronome 7, au verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Il avait le libre arbitre pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui nous a choisis, ou qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu respecter le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Il y a des situations dans la vie où les gens sont mentalement incapables d'exercer correctement leur libre arbitre. Mais Dieu, comme, si vous voulez, il couvre sous les lois de l'autorité et doit voir comment tout ceci est imbriqué. Vous voyez, Dieu est là, il va nous aider. Ensuite, nous pouvons perdre ou soumettre une partie de notre libre arbitre. En faisant quoi? En limitant nos choix. Par exemple, quand en 1969, j'étais enrôlé dans l'armée américaine, mon libre arbitre fut largement limité, car j'étais sous l'autorité de quelqu'un. Ainsi, je n'étais pas libre de sortir la nuit. Je n'étais pas libre d'aller où je voulais. J'étais très limité. Et comme je montais en rang, mon autorité augmentait. Et je pouvais faire d'autres choses. Mais je veux que vous voyez ceci. Parce que nous devons maintenir notre libre arbitre. Même l'adversaire doit respecter le libre arbitre. Par exemple, on part d'un alcoolique. On dit qu'un alcoolique a bu. Un homme, de par son libre arbitre, peut dire, aujourd'hui je ne veux pas boire. Et il peut éviter ceci simplement par libre arbitre. Et l'adversaire doit respecter ce libre arbitre. Et ce que l'adversaire fait, c'est d'essayer de briser ce libre arbitre. Et quand ce libre arbitre est brisé, bon, nous disons qu'il a bu. Il a transmis son libre arbitre à quelque chose d'autre. C'est très important que nous maintenions notre libre arbitre. Et si vous perdez votre libre arbitre, dans certains aspects de la vie, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de délivrance. Et Dieu est disposé à vous délivrer. Et nous avons des ministres qui ont cette capacité de marcher avec cette autorité déléguée et d'exercer pour vous aider à être libre. Ne permettez jamais à l'adversaire de vous remettre dans la servitude. Vous devez avoir votre libre arbitre de choisir et de bouger. La deuxième chose, c'est la loi de la croyance, qui est disponible pour tout le monde, saint comme pécheur. Tous peuvent croire, les croyants et les incroyants, si vous voulez, les croyants et les incrédules des Écritures. Et la loi déclare tout simplement que vous recevrez ce que vous croyez. Je voudrais aller à Matthieu 21, au verset 21-22, Matthieu. Et dans ce verset, il est dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, c'est-à-dire avec croyance, par la prière, vous le recevrez. Je sais qu'il y a des gens qui disent que la loi de la croyance n'existe pas. Et Jésus ne savait même pas de quoi il parlait. Je crois que la loi de la croyance existe. Et les gens ne comprennent pas les lois de la croyance, le libre arbitre, les lois de l'autorité, interagissant les uns les autres. Ça dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Et en 1 Jean 5, verset 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Rappelez-vous. Il dit que si nous demandons quelque chose selon quoi? Selon sa volonté. Ne vous accrochez pas selon sa volonté. C'est la même chose que ce qui a été dit à Deutéronome 30, 19. Nous devons choisir la vie. Nous devons choisir les bénédictions. Mais supposons que je décide que je vais mettre ma tête à la guillotine. Je m'en vais arrêter la lame derrière mon cou. Mais ceci ne cadre pas avec choisir la vie. Et le résultat ne sera sûrement pas les bénédictions. Il y a des limites qui gouvernent la loi de la croyance. Maintenant, quand il s'agit de l'autorité, il y a certains facteurs que nous devons aussi considérer. Par exemple, quand nous demandons quelque chose avec croyance, cette croyance doit être dans le cadre de selon sa volonté. Et sa volonté, c'est tout ce qui est bénédiction. Choisis les bénédictions, choisis ce qui est vie. Nous devons nous assurer que nous tenons ceci et en considération, nous tenons ceci en considération. Et ne renonçons pas à notre libre arbitre. comme né de nouveau, il nous a été donné l'autorité d'exercer dans un domaine de responsabilité. Je voudrais aller à Luc. Allons à Luc 10, évangile de Luc, chapitre 10 et au verset 1. Il est dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. J'aimerais retourner au chapitre 9. Allons au chapitre 9, verset 1. S'il est en train d'envoyer ses 70 dans la même capacité, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna quoi? Force. C'est dynamis, ici. Ce qui veut dire pouvoir potentiel. Ils avaient donc le potentiel. Et pouvoir, autorité. Non seulement avaient-ils la force, mais ils avaient aussi l'autorité déléguée d'utiliser cette force. Par exemple, quand j'étais dans l'armée, j'avais une arme. Mais à beaucoup d'endroits où je me trouvais, n'étaient pas des zones où j'étais autorisé de tirer. Si j'étais attaqué, je n'avais pas droit de riposter, à moins que j'aie l'autorisation. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Il nous donne la force et nous donne l'autorité déléguée de l'exercer sur une zone de responsabilité. Et il nous dit ici sur quelle sphère de responsabilité ou sur quel domaine de responsabilité il s'agit. C'est très important. Il leur donna une autorité déléguée sur une zone de responsabilité qui était tous les démons et de guérir les malades. Nous sommes donc autorisés d'utiliser cette puissance sur les démons et sur les maladies pour guérir les malades. Et le verset 5 nous dit, il s'agit ici d'un avertissement. Pourquoi? Parce que tout le monde a le libre arbitre. Tout le monde peut opérer le loi de la croyance ou décider de ne pas croire. Et ceci affectera comment vous pouvez exercer cette force et la distance de votre autorité. Regardez au verset 5. On est au verset 5 de Luc 9. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussée de vos pieds en témoignage contre eux. Alors, y en aura-t-il qui ne voudront pas la présence des apôtres et tout ce qu'ils voudront faire? La puissance sur le diable et guérit les malades. Peut-être y avait-il des gens qui n'en voulait pas. Pouvait-il les forcer à le faire? Ou non? J'ai l'autorité. Non. Les apôtres ne pouvaient pas forcer tous ces gens. Vous vous rappelez, Jésus dans sa propre ville, il ne pouvait pas y faire des miracles à cause de leur incrédulité. Regardons à Matthieu 13. Je vais vous montrer comment tout ceci est lié et fonctionne ensemble. Car si vous ne comprenez pas ceci, vous allez vous mettre à douter de votre libre arbitre, ou votre opération de la loi de croyance, ou douter de l'autorité que vous avez. Vous voyez, ces choses travaillent ensemble. Et il y a une certaine priorité. Chacun a son libre arbitre. Matthieu 13. Je ne peux pas dépasser le libre arbitre. Même si j'ai l'autorité sur vous, ou même si j'ai l'autorité sur tous les diables, et de guérir les maladies, Regardez Matthieu 13, verset 58. Et il, c'est qui? C'est Jésus. Ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Selon la loi de la croyance, ils avaient le libre arbitre de choisir. Choisir de ne pas croire. Jésus est allé là-bas croyant qu'il allait faire des miracles et des prodiges. Il ne put en faire, car les habitants de sa ville n'en voulaient pas, voyez-vous. De par leur propre libre arbitre, ils refusèrent de croire. Ipso facto, ils ne lui permirent pas d'exercer l'autorité. Il y eut par contre certaines personnes qui crurent. Quand ça dit il ne fit pas beaucoup de miracles, ça sous-entend qu'il en fit quelques-uns. Dieu ne nous a pas donné le droit exclusivement, je peux croire ou non. Mon voisin a-t-il le même droit? Bien sûr. Il n'y avait rien de mal avec Jésus ou avec ses compatriotes. Il exerça son droit de croire et eux exercèrent leur droit de ne pas recevoir. C'est la même chose avec nous. Jésus avait beaucoup de succès quand les gens venaient à lui de leur propre libre arbitre, croyant qu'ils recevraient quelque chose de lui. Certains récits disent qu'il les guérit tous. Ils crurent et vinrent de leur propre libre arbitre. Il y a eu des moments où il allait chez les gens, mais il y a des spécificités à ce sujet. Notre autorité est tout d'abord spirituelle. Regardons à Luc 10. C'est là notre zone de l'autorité. C'est notre première zone d'autorité. Mais ça couvre aussi la partie physique. Mais encore une fois, les gens ont leur propre libre arbitre. Ils peuvent opérer leur loi de croyance ou ils ont le privilège de ne pas croire. C'est leur décision. Et Dieu est si aimant et si bon à tel point que s'ils ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Luc 10 au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Joyeux Satan, tombez du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, le pouvoir délégué dans une zone de responsabilité de marcher sur les serpents, les scorpions. » Et sur toute la puissance du Damis, le potentiel de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Eh bien, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et notre autorité sur l'ennemi est complète. Il y a aussi l'autorité dans le sens, si vous voulez, auquel nous devons regarder. Et l'autorité dans le monde des sens. Les lois qui font partie de la vie. Rappelez-vous le récit de Paul dans le livre des Actes. Et allons en Actes chapitre 4. Acte 4. Vous vous rappelez, Paul voulait aller à Jérusalem. Et Dieu pensa que ce n'était pas une bonne idée. Il n'avait pas fait un bon choix à ce moment particulier. Mais malgré les avertissements, Paul s'y rendit quand même. Avait-il le libre arbitre? Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passa? Il fut arrêté, il fut envoyé à Césarée et apparut devant Félix qui était le gouverneur en acte 24. Acte 24. Et comme gouverneur, il avait juridiction sur cette zone. En d'autres termes, il avait la puissance déléguée d'exercer sur la région de sa responsabilité. Et il avait le droit légal de faire les choses qui cadraient avec l'autorité romaine. Ce sont les Romains qui avaient délégué cette autorité à Félix. Et Rome avait les lois. Et sous ces lois, Philippe avait le droit d'exercer cette autorité selon ce que Rome lui avait délégué. Et les juges engagèrent un grand magistrat, Tertulle. Il était la crème de la crème. Et il aurait des esprits diaboliques opérant en lui. Mais il était très qualifié selon les cinq sens. Il connaissait les lois. Son argumentation exposée était éblouissante. Et selon les lois de Rome, Paul pouvait aussi se défendre. Regardez au verset 2. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite les divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte de Nazaréens. Il présente ici de meilleurs cas pour que Félix soit de son côté. Car c'est Félix qui avait la dernière décision, verset 6, et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias était survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation. Voyez, les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répondit, eh bien, selon la loi, Paul pouvait être sa propre défense. Et Paul commença à parler. Est-ce que Paul était croyé pour être libéré? Ah bien sûr. Exerçait-il l'autorité qui lui a été donnée par Rome? Certainement. Et je suis certain qu'avant ceci, il avait exercé l'autorité spirituelle que Dieu lui avait donnée sur la puissance de l'ennemi, qui est le domaine des esprits diaboliques. Car il n'était pas stupide. Ce qu'il voulait faire, c'était de les empêcher, c'est-à-dire d'empêcher les esprits diaboliques d'intervenir, les empêcher de causer d'autres problèmes. Et s'il voulait l'attaquer, il n'avait qu'à le faire de leur propre volonté. Alors, gardons le ruban ici et allons en roi. Premier roi. 22. Et verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y eût la guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. En Jude, si vous voulez, en Juda, Josaphat est le patron. Mais en Israël, il ne l'est pas. Il s'apprêtait à se battre contre la Syrie. Mais Josaphat appelle un prophète, comme c'était le roi d'Israël qui avait l'autorité, se trouvant sur son territoire, il dit qu'il pouvait en amener 400. Et tous les 400 lui dirent d'aller en guerre contre la Syrie, car il y gagnerait. Mais Josaphat n'était pas convaincu. Et regardons verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Vous voyez? Ensuite, au verset 19, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le salueras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vous voyez, Dieu ne parle pas à un esprit. Vous voyez, ce sont les esprits diaboliques qui montent. On est en cours ici. Et ces esprits diaboliques rentrent dans les bouches des gens. Retournons en acte 4. Acte. Nous avons de l'autorité. Acte 24. Paul aussi avait l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous pouvons contrôler ceci. Mais Paul ne pouvait pas contrôler le libre arbitre de Félix. Il ne pouvait pas non plus contrôler le libre arbitre de Tertulle. Mais il pouvait empêcher les esprits diaboliques de fonctionner ici. Parce qu'il devait toujours faire face à l'incrédulité de Félix et de Tertulle. Mais il ne faisait pas face à la puissance spirituelle. Je suis certain que Paul, voyez-vous, a lu le récit de roi. Alors on est en acte 24, et Paul est en train ici de se défendre. Il va retenir les esprits pour que Félix prenne une décision sans influence spirituelle. Et dans le verset 22, Félix, qui avait assez exactement, qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Voyez-vous, selon la loi romaine, Félix devait ajourner la session car Tertulle avait ouvert la porte en disant que Lysias devait venir témoigner. On devait donc attendre son arrivée. Regardez la bénédiction de Paul. Même au cours du procès, il travaille son libre arbitre. Il opère la loi de la croyance. Et il exerce son autorité spirituelle. Et au verset 33, il est dit, non, au verset 23 plutôt, pas 33, parce que ça n'existe pas de verset 33. verset 23 de d'Acte 24, et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Est-ce que Paul avait le libre arbitre? Bien sûr. Est-ce que Tertulle marchait par libre arbitre? Certainement. Il est de même pour Félix. Est-ce que Paul croit? Mais certainement. Est-ce que Tertulle croit? Bien sûr. Il est en train de présenter son cas. Félix croit-il? Bien sûr. Mais il est sous l'autorité de l'Empire romain. Et il ne peut pas continuer le procès. Et les bénédictions qui suivit Paul consistaient à ce qu'il pouvait être avec des gens qu'il aimait. Oh, quel grand Dieu! Il se retrouve sous l'autorité de Félix. Est-ce la décision de Félix? On ne se décourage pas. Il n'est pas le seul qui ait le libre arbitre. Il n'est pas non plus le seul qui croit et qui ait l'autorité. Mais là où il a l'autorité, il exerce. Paul exerce ici l'autorité sur le domaine spirituel. Mais il y a aussi l'autorité des sens que nous devons comprendre, qui sont en opération ici. Paul comparaît devant le gouverneur et Tertulle prend la place du gouverneur. Le roi aurait renvoyé Paul à Jérusalem. Mais il y a là 40 hommes qui avaient juré de tuer Paul. Alors il s'agit d'une situation défiante pour Paul. Ces gens avaient le libre arbitre de dire que Paul était le pire des hommes, en vita ipso facto des esprits diaboliques. Et Paul décide de rester à Jérusalem et d'en appeler à César, à Rome, selon le droit qu'il avait vis-à-vis de l'Empire romain, en tant que citoyen romain. Et il sera envoyé à Rome pour comparaître devant César. C'était la meilleure façon, au lieu de le renvoyer à Jérusalem, où il y avait 40 hommes qui avaient juré de le tuer. Il va chez le roi Agrippa, qui est au-dessus de Festus, qui est le gouverneur. Et vous avez un roi au-dessus du gouverneur. Et un jour, Paul va en tournée sur un bateau. Je sais que vous voyez comment le libre arbitre, la loi de la croyance et l'autorité marchent ensemble dans la vie. Et quand nous comprenons ceci, et nous voyons comment ça fonctionne ensemble, alors nous pouvons vivre victorieusement et avec puissance. Car en fin de compte, en Acte 28, verset 30, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Dans sa maison, il avait l'autorité complète. Qu'en est-il des domaines où vous avez l'autorité spirituelle ainsi que l'autorité physique? Comme dans votre maison, comme à votre lieu de travail. Nous devons exercer toutes ces choses pour que nous vivions puissamment et dynamiquement dans cette vie. Quand nous comprenons qu'il y a 3 facteurs, le libre arbitre, la loi de la croyance et les lois de l'autorité, et qui sont liés, nous pouvons vivre avec puissance et victorieusement. Voilà ce que je voulais partager avec vous et pour votre bénédiction. Je voulais, bien sûr, que vos cœurs soient bénis par cet enseignement. Amen.